Le 18-20, c'est parti, 2 heures ensemble, installez-vous, détendez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est tout ce que vous devez savoir. D'abord, de l'actualité de ce jeudi 22 septembre avec le journal de Sébastien Legenny. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par la froideur d'un rapport d'autopsie.
Avec le témoignage glacial des responsables de l'Institut médico-légal, aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre, l'identification des corps fut une terrible épreuve à l'époque. Nous seront sur place au palais de justice de Paris en début de journal. Le gouvernement sort encore le carnet de chèques, cette fois-ci pour la prise en charge des personnes âgées, un effort de 400 millions d'euros, avec notamment l'embauche d'ici 5 ans de 10 000 personnes dans les EHPAD, un effort salué mais largement insuffisant pour les professionnels de terrain. À suivre aussi la démission fracassante de l'émissaire américain en Haïti, une grève des enseignants sur les conditions de travail et la mort d'un pionnier de la culture afro-américaine, j'ai nommé le cinéaste Melvin Van Peebles.
À 18h15, un jour dans le monde, au Liban, ce soir, le nouveau Premier ministre est à Paris en visite avec Emmanuel Macron. Demain, sans doute, pour lui dire cette fois, ça y est, nous repartons. Nous avons un gouvernement après 396 jours de vacances du pouvoir. C'est déjà ça, mais certainement pas assez pour les Libanais. C'est ce que nous verrons avec notre premier invité. À 19h20, nos plus vieilles années sont dans le téléphone sonne. Vous en parliez, Sébastien. Cette compensation, 400 millions d'euros, annoncée par le Premier ministre pour le grand âge. On s'interroge. On détaillera ces chiffres avec vous. Vous témoignerez également et avec vos questions de la manière dont nous savons ou pas prendre en charge le grand âge dans une France qui vieillit. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un souvenir traumatisant pour les familles de victimes des attentats du 13 novembre.
Ce moment où il a fallu aller reconnaître le corps de leur fils, de leur fille, de leurs proches. La cour d'assises spéciale s'est penchée aujourd'hui sur l'identification des 130 morts de cette soirée sanglante. Une audience pesante étendue. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Et première épreuve de cette audience, il a d'abord fallu comprendre comment étaient mortes chacune des victimes.
Ce sont des balles particulièrement redoutables que celles des Kalachnikov. Des projectiles à très haute vélocité, décrit à la barre le chef de l'Institut médico-légal de Paris. Ces balles ont parfois traversé plusieurs corps ou plusieurs membres d'une même personne, poursuit le professeur Lude, jusqu'à 32 orifices pour l'une d'elles. Seul élément apaisant, si cela peut encore l'être, nous avons pour un grand nombre de victimes un décès immédiat, explique le médecin légiste. Pour les autres, souffrant d'hémorragie massive, on parle de décès dans les 3 à 4 minutes, ajoute-t-il, avant de reconnaître que d'autres encore, touchés aux jambes, ont sans doute agonisé plus longtemps.
Ce récit glaçant, Charlotte, des familles étaient là pour l'écouter sur les bancs des parties civiles, des familles qui à l'époque se sont senties maltraitées par les médecins.
Et on les voit s'agiter sur les bancs de la salle d'audience. Lors de la présentation des corps, les familles avaient droit à 5 minutes, déplore un avocat de partie civile. Le directeur de l'Institut médico-légal s'excuse. Si ça s'est passé comme ça, je suis vraiment désolé et confus. Mais ça s'est passé comme ça, s'agacent les familles, encore marquées par ces jours qui ont suivi les attentats. Georges Saline, par exemple, a attendu longtemps avant d'apprendre la mort de sa fille.
Et encore 6 ans après, il y a ce souvenir et ce ressentiment. Parce que ça, c'était la grande préoccupation des familles aujourd'hui quand même. Quels ont été les derniers instants? Combien de temps s'est écoulé entre la blessure et la mort? Voilà, et c'est des questions où malheureusement l'expert n'avait pas toujours la réponse. Hein, mais tout le monde a plus ou moins des mauvais souvenirs liés à l'Institut médico-légal. Un peu plus de chaleur humaine, elle serait bien sûr appréciée.
Et puis arrive cette terrible liste de dépouilles inversées, de victimes décédées, confondues avec d'autres blessées, comme la jeune Lola, 17 ans, morte à l'hôpital et identifiée au bout de 6 jours seulement. À son évocation, la commissaire qui s'est avancée à la barre craque et pleure sur cette si terrible erreur.
Charlotte Piret en direct du palais de justice de Paris avec Geoffrey Marianne. Moyen technique, le procès des attentats du 13 novembre 2015 est à retrouver aussi sur franceinter.fr.
Il n'y aura pas de plan grand âge, mais l'exécutif veut quand même marquer le coup.
Oui, le premier ministre Jean Castex a donc fait toute une série d'annonces aujourd'hui depuis Autun en Saône-et-Loire. Le gouvernement va débloquer l'an prochain plus de 400 millions d'euros pour la prise en charge des personnes âgées, dont 240 millions fléchés vers les services à domicile. Il y aura désormais un tarif plancher dans toute la France. Les prestataires seront payés au moins 22 euros de l'heure dans tous les départements. D'ailleurs, le Premier ministre veut recruter 10 000 postes supplémentaires de soignants d'ici 5 ans dans les maisons de retraite médicalisées, les EHPAD. Une annonce qui ne réglera pas tous les problèmes pour Sylvain Conangle, il est directeur de l'EHPAD de la Madeleine à Bergerac.
C'est un signal qui est envoyé. Avoir des possibilités de financement en plus, c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir, est-ce qu'on va pouvoir assumer ces recrutements. La réponse est, dans les médias, c'est non, puisqu'il n'y a jamais eu autant de pénurie de personnel, que ce soit dans le secteur à domicile ou dans le secteur des EHPAD. Bien évidemment, si il y a une augmentation de entre, je dirais, 5 et 10% des effectifs d'ici 5 ans, ça va améliorer les conditions de travail des professionnels au niveau des EHPAD. Mais il y a aussi quelque chose de très important, je dirais, c'est que les EHPAD retrouvent du sens à ce qu'ils font, notamment les professionnels où, il faut être honnête, la période Covid, malheureusement, a entraîné par moments de la démobilisation, du désinvestissement, parce qu'il y a un essoufflement évident et qu'on peut comprendre d'ailleurs. Mais avec effectivement du personnel complémentaire, ça ne peut qu'aller mieux.
Sylvain Conangle, directeur d'EHPAD à Bergerac avec France Bleu Périgord. La chasse aux faux passes sanitaires s'accélère d'après un premier bilan de l'assurance maladie. 36 000 passes seraient présumés faux. 270 soignants sont suspectés. Des délits lourdement sanctionnés. 50 prisons, 150 000 euros d'amende pour le médecin faussaire et 3 ans et 45 000 euros d'amende pour les utilisateurs. Au chapitre sanitaire encore, les propos très controversés de Christiane Taubira sur la vaccination. L'ancienne ministre a refusé ce matin d'appeler la population guyanaise à se faire vacciner, pourtant ravagée par le Covid et très peu vaccinée. Elle explique qu'elle ne dispose pas, dit-elle, des éléments d'information lui permettant formellement de donner une consigne. Christiane Taubira qui a ensuite clarifié ses propos dans un tweet répétant, je cite, que les arguments anti-vax sont un tissu d'imbécilité, une polémique sur laquelle on reviendra dans le journal de 19h. C'est un geste rarissime de la part d'un diplomate. La démission aujourd'hui de l'émissaire américain à Haïti. Il avait été nommé il y a 2 mois pour tenter d'aider à la stabilisation de ce pays au bord du chaos, mais depuis quelques jours, l'administration à Washington avait durci sa politique à l'égard des migrants, expulsant des Haïtiens par centaines en avion, 1400 au total depuis dimanche. Une politique inhumaine, ce sont les propres mots de l'émissaire Daniel Foote, qui quitte donc ses fonctions avec fracas, Marie-Pierre Véraud.
La méthode, rendre publique sa lettre de démission, détonne déjà dans les cercles diplomatiques. Mais les termes employés par l'émissaire américain en Haïti résonnent eux avec fracas. Politique inhumaine, contre-productive que ces expulsions massives vers Haïti, un pays, écrit Daniel Foote, où règnent en maître les gangs armés, au point que les responsables américains sur place sont eux confinés dans des complexes sécurisés. Je ne serai pas associé à une telle politique, tranche le diplomate. Inhumaine. Comment en effet la qualifier autrement lorsque l'on voit ces images à l'aéroport de Port-au-Prince, des Haïtiens qui découvrent à leur arrivée qu'on vient de les déporter dans ce pays qu'ils ont pour certains fui depuis de nombreuses années, qui tentent de remonter leurs affaires qui sont jetées en vrac sur le tarmac. Des centaines d'hommes, femmes, enfants laissés à eux-mêmes. L'État haïtien s'est effondré. L'assassinat du président en juillet, le séisme du mois dernier sont venus ajouter encore à l'insécurité. Daniel Foote avait demandé plus de latitude pour mener sa mission, faciliter la paix et la stabilité. En vain, après le chaos afghan, voilà la politique de Joe Biden en Haïti, étriée par son propre émissaire.
Marie-Pierre Véraud, tourner la page du coup dans le dos, selon les propres mots du patron du Quai d'Orsay dans l'affaire des sous-marins australiens. Après les présidents américains et français, c'était au tour des ministres des Affaires étrangères de s'expliquer. Rencontre aujourd'hui entre Anthony Blinken et Jean-Yves Le Drian, avec quelques mots seulement dans un communiqué du Quai d'Orsay à la sortie. Sortir de la crise que nous vivons prendra du temps et requerra des actes. Ils manifestaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail à l'école. Plusieurs milliers d'enseignants se sont rassemblés en France à l'initiative de la CGT, FSU, FO et Sud. Une grève très peu suivie selon le ministère. 4% de grévistes dans le primaire, 6% dans le secondaire. Des chiffres 5 fois plus élevés selon les syndicats. Ils ont défilé notamment à Marseille où les manifestants descendaient dans la rue pour dénoncer les dernières annonces présidentielles dans la cité phocéenne. Romane Porcon.
Parmi les annonces d'Emmanuel Macron, les directeurs d'école vont pouvoir choisir eux-mêmes leurs enseignants. 50 établissements marseillais vont servir de laboratoire. Et ça, c'est inacceptable pour Élise Giroux, professeure de français dans un collège marseillais.
Et on ne veut pas un système à l'américaine, puisque c'est ce que nous promet Emmanuel Macron, où finalement ce seront les directeurs qui choisiront. Ça va surtout créer une école à deux vitesses comme aux États-Unis. Moi je suis de l'école de la République, moi je suis pour Victor Hugo, Jules Ferry, moi je ne vais pas me faire copine. Après on peut, je veux dire, être sympathique avec le chef d'établissement, ce n'est pas la question.
Le président Emmanuel Macron qui a également promis de restaurer les écoles vétustes. Une mesure très attendue, notamment par Fatma Sali, enseignante en histoire-géographie.
Si vous voyez l'état des écoles et de certains collèges, il n'y a aucun respect, aucune dignité pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants, c'est juste pas normal. Le collège des Cailloles, par exemple, il est dans un état mais catastrophique. Ils sont en train de faire des travaux de désherbiantage, les punaises de lit. On est en France ou on est où, là? Donc à un moment donné, bien sûr qu'il faut mettre la main à la poche pour que nos enfants et les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions.
Pour travailler dans de bonnes conditions, ces enseignants attendent aussi plus de recrutement et une augmentation de leur salaire. Marseille, Romaine Porcon, France Inter.
Comment mieux rémunérer les agriculteurs? Le dossier est régulièrement sur la table du gouvernement depuis des années. Hier soir, il s'est un peu accéléré. La loi Egalim 2 a été votée au Sénat et devrait être promulguée à la fin du mois prochain. Elle est censée assurer un meilleur revenu aux agriculteurs en rééquilibrant le rapport de force avec les industriels et les distributeurs. Une démarche qui est venue défendre aujourd'hui le ministre de l'Agriculture en clôture du 75e congrès de la FNSEA devant un public de convaincus. Manuel Ruffez.
Une alimentation de qualité, ça a un coût. Voilà ce que répète à volonté devant un public évidemment conquis le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Nous avons constaté que la première loi était insuffisante, dit-il. C'est rare pour un gouvernement de se corriger ainsi. Nous devons mettre fin à la guerre des prix.
Aujourd'hui, c'est toute la chaîne agroalimentaire qui creuse sa tombe. Et donc ce sursaut de tous les chefs d'entreprise, de tous les capitaines d'industrie, de grande consommation ou de producteurs, il est absolument nécessaire. Parce que, encore une fois, du modèle agricole de notre pays dépend la réussite de ce que nous sommes en train de faire.
Dans quel monde vit-on? Va renchérir la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. On est prêt à payer plus cher un smartphone, mais pas notre alimentation. Et pour elle, une fois encore, c'est à la distribution de faire des efforts.
3 ans de déflation des prix alimentaires ont rendu les comptes de nos entreprises exsangues. Et je vous le dis, les déclarations péremptoires des grands manitous de la grande distribution sur le pouvoir d'achat n'ont toujours pas empêché la précarité alimentaire. Mais pour eux, pas de précarité. C'est jackpot chaque année.
Dans la salle, les adhérents FNSEA sont bien sûr au diapason de ces discours, en espérant cette fois en voir le résultat dans la comptabilité de leurs exploitations.
Manuel Ruffez, au chapitre consommation, cette annonce de la SNCF qui va étendre son offre low-cost Ouigo avec, après les TGV, les trains à vitesse classique, des trains roses à bas prix sur Paris-Lyon et Paris-Nantes, 5,15 € pour Paris-Lyon, entre 10 et 30 euros le billet, et 5 euros pour les enfants.
C'était l'un des pionniers de ce qu'on appelle la Blaxploitation.
Ouais, ce courant culturel des années 70 aux États-Unis pour redonner de la visibilité aux Afro-Américains. Melvin Van Peebles, l'un de ses plus prolixes créateurs, est mort. Il avait 89 ans. Un cinéaste, mais aussi un romancier, dramaturge et musicien. Loïc Piala. I have a pleasant
surprise for you. Son premier film, Melvin Van Peebles, l'a tourné en France où la Cinémathèque l'avait invité pour présenter ses courts-métrages. La permission, l'histoire d'un soldat noir tombant amoureux d'une blanche, a même représenté la France au Festival de San Francisco. Personne ne savait que le réalisateur était américain et surtout noir, une rareté à l'époque. Malgré le succès de Watermelon Man, une comédie centrée sur un blanc raciste se réveillant noir, Hollywood ne veut pas financer son prochain film, jugé trop radical. Dans Sweet Sweet Back Ballast Song, un Afro-Américain attaque des policiers blancs en train de s'en prendre à un militant des Black Panthers. Le comédien Bill Cosby lui prête $50,000. Van Peebles se sert de la bande originale pour la promotion, une technique devenue habituelle depuis. Disponible au départ dans 2 salles, Sweet Back récolte $10 millions et ouvre la porte à la Blaxploitation ainsi qu'au cinéma indépendant. Van Peebles voulait des hommes noirs forts à l'écran, loin des clichés hollywoodiens, puisque les studios ne le faisaient pas, il les a créés lui-même. Ce fils de tailleur de Chicago a aussi écrit, peint, étudié l'astronomie et connu une carrière parallèle de trader. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Un dernier mot de sport avec la commission de discipline de la Ligue professionnelle de foot qui a commencé à se réunir ce soir pour se pencher sur les dernières heures entre supporters, notamment hier en marge de Montpellier-Bordeaux et Angers-Marseille. À noter que le RC Lens a déconseillé ce soir à ses supporters d'effectuer le déplacement à Marseille pour le match de dimanche prochain contre l'OM, invoquant des conditions de sécurité, je cite, non garanties.
Formidable. Merci beaucoup, Sébastien.